Chapitre 22. Le Wild. Quand Gawain lui plaqua une main sur la bouche, Egwene se réveilla en sursaut. Elle se tendit, les souvenirs lui revenant comme les premières lueurs d'un lever de soleil. Avec Gawain, il se cachait toujours derrière la charrette renversée. Autour d'eux, le décor était noir comme du charbon, et l'odeur du bois brûlé prenait à la gorge. La nuit tombée, Egwene ne savait toujours pas quoi faire. Elle regarda Gawain et hocha la tête. S'était-elle vraiment endormie? Ça semblait presque impossible dans des circonstances pareilles.
« Je vais essayer de filer, »
souffla Gawain pour créer une diversion.
« Je viens avec toi.
Seul, je serai plus silencieux. »
« Gawain Trakand, de toute évidence, tu n'as jamais essayé de prendre par surprise un natif ou une native de Deux-Rivières. Je te parie 100 marques de Tarvalon que je ferai moins de bruit que toi. »
« C'est vrai, »
admit Gawain.
« Mais si tu approches à moins de 10 pas d'une charienne, tu te feras repérer, silencieuse ou pas. Ces femmes patrouillent le long du périmètre du camp. »
Egwene arqua un sourcil. « Comment savait-il ça ?»«
Tu m'as laissé pour aller voir ce qui se passait ?»«
Pas longtemps, et personne ne m'a vu. » Ils dévastent le camp, tuant ou faisant prisonnier tous les gens qu'ils rencontrent. Notre cachette ne tiendra pas beaucoup plus longtemps.
Sacrée tête de pioche. Il n'aurait pas dû s'éloigner sans lui demander la permission.
Nous.
Gawain se raidit et Egwene se tut. Des bruits de pas. Les deux jeunes gens s'enfoncèrent dans les ombres, tandis que passaient devant eux une dizaine de prisonniers qu'on poussait vers l'endroit où se dressait jusque-là le pavillon de commandement. Autour des captifs, les chariens disposèrent des lanternes attachées à des perches. Une partie de ces malheureux vaincus étaient des soldats épuisés au point de pouvoir à peine marcher. Mais il y avait aussi des cuisiniers et divers employés. Sans chemise, pantalons baissés, tous avaient été fouettés. Sur leur dos, quelqu'un avait tatoué un symbole qu'Egwene ne réussit pas à identifier. Tatoué ? On aurait bien dit oui. Mais le signe aurait également pu être gravé au fer rouge. Dès que les prisonniers furent plus ou moins en formation, quelqu'un cria une courte phrase. Quelques minutes après, un charien à la peau noire approcha, tirant avec lui un jeune messager qu'il devait avoir coincé dans le camp. Après avoir arraché la chemise du gamin, il le fit tomber à genoux, sans se soucier de ses cris. Bizarrement, les chariens portaient une tenue qui, dans le dos, arborait une découpe en forme de diamant. En plissant les yeux, Egwene vit que le garde avait lui aussi entre les omoplates un tatouage qu'elle ne distinguait pas clairement. Sinon, la tenue de l'homme était très protocolaire, avec une grande robe raide qui lui tombait presque jusqu'aux genoux. Si ce vêtement n'avait pas de manches, la chemise qu'il portait dessous, elle aussi découpée dans le dos, en avait de très longues. Un autre charien jaillit des ombres, presque nu celui-là. Au-dessus de son pantalon en lambeaux, il ne portait pas de chemise. Les tatouages, chez lui, ne s'étendaient pas sur le dos, mais en travers des épaules, remontant autour de son cou comme des lianes pour aller titiller sa mâchoire et le bas de ses joues. On eût dit une centaine de mains tordues, leurs longs doigts griffus soutenant la tête du type. Lentement, il approcha du jeune messager agenouillé. Aussitôt, les autres gardes reculèrent. À l'évidence, qui qu'il soit, cet homme les mettait mal à l'aise. Avec un rictus, il tendit une main. Dans le dos du messager, un symbole se grava, semblable à ceux qui marquaient les autres prisonniers. De la fumée monta du dos du jeune homme, qui hurla de douleur. Sonné, Gawain relâcha doucement son souffle. Cet homme, au visage tatoué, il était capable de canaliser. Plusieurs gardes marmonnèrent entre eux. Egwene aurait presque pu comprendre ce qu'il disait, mais l'accent gâchait tout. Le tatoué aboya comme un chien sauvage. Les gardes s'écartèrent, et il passa entre eux avant de se volatiliser dans les ombres.
« Par la lumière !» pensa Egwene.
Mais quelque chose d'autre attira son attention. Deux femmes en robe de soie évasée venaient d'émerger des ombres. L'une, remarqua Egwene, avait la peau plus claire que sa compagne. En regardant bien, elle vit que c'était aussi le cas de certains soldats. Tous les chariens n'étaient pas noirs d'ébène, comme ceux qu'elle avait vus jusque-là. Les femmes se révélaient d'une rare beauté, très délicate. Egwene recula derrière sa charrette. D'après ce qu'elle avait vu un peu plus tôt, ces chariennes devaient savoir canaliser le pouvoir. Si elles approchaient trop, elles risquaient de la détecter. Pendant qu'elles étudiaient les prisonniers à la lueur des lanternes, Egwene vit qu'elles avaient aussi des tatouages sur le visage, moins perturbants que ceux de l'homme cependant. Comme des feuilles, ils prenaient naissance sur leur nuque, passaient sous leurs oreilles et s'épanouissaient sur leurs joues. Quand les deux femmes se parlèrent à voix basse, la chère dame Irline eut le sentiment qu'elle aurait pu comprendre leurs propos. Mais il aurait fallu recourir à un tissage pour amplifier les sons.
« Idiote !»
se tensa Egwen. Un seul filament de pouvoir et elle aurait signé sa sentence de mort. D'autres chariens se massèrent autour des prisonniers. Egwen retint son souffle. Des dizaines de gens approchaient. 100, voire 200. Peu volubiles, ces inconnus semblaient appartenir à un peuple austère et solennel. Dans le dos, ils arboraient une découpe en forme de diamant qui dévoilait leurs tatouages, le symbole de leur statut. A priori, Egwen avait supposé que les gens les plus importants arboraient les tatouages les plus sophistiqués. Mais un casque à plumes sur la tête et une armure d'or composée de disques cousus entre eux grâce à leur trou central, ceux qui devaient être des officiers ne présentaient que de petites ouvertures à la base des épaules, qui révélaient des tatouages très simples.
« Pour les exposer, ils ont retiré une partie de leur armure », pensa Egwen.
À coup sûr, ils ne se battaient pas en dévoilant leur peau, une pratique réservée aux rituels et aux cérémonies. Les derniers chariens qui vinrent se joindre à la foule étaient les plus étranges du lot. Deux hommes et une femme, perchés sur de petits ânes, chacun vêtu d'un pagne de soie brodée qui allait très bien avec les chaînes d'or et d'argent de leur monture. Sur leurs cheveux montés en pyramide, des plumes multicolores oscillaient doucement. Au-dessus de la taille, tous les trois ne portaient rien, à part les pendentifs et les colliers qui couvraient une bonne partie de leur poitrine. La nuque rasée au-dessus de leur dos exposé, ils n'arboraient pas l'ombre d'un tatouage. Des seigneurs ou quelque chose dans ce genre? Sauf que tous les trois semblaient hantés, le regard vide, et ils se penchaient vers l'avant, les traits défaits. Fins au point de paraître squelettiques, leurs bras semblaient cassants comme du verre. Qu'avait-on fait à ces malheureux? Tout ça n'avait aucun sens pour Egwen. Sans nul doute, les chariens étaient un peuple aussi déconcertant que les aïels, et probablement plus.
Mais pourquoi se montrent-ils maintenant, après des siècles et des siècles de solitude revendiquée? Pour quelle raison nous envahir aujourd'hui?
Il n'existait pas de coïncidence, surtout si énorme. Ces chariens, alliés des Trollocs, étaient venus pour piéger l'armée d'Egwen. Une découverte capitale. Tout ce qu'elle apprendrait ici aurait une importance vitale. Puisqu'elle ne pouvait pas aider ses combattants, veuille la lumière que certains aient survécu, elle était au moins en mesure de glaner des informations. Gawain lui tapota le bras. Le regardant, elle vit qu'il mourait d'inquiétude pour elle.
« Maintenant ?»
articula-t-il muettement, en tendant un bras derrière lui. L'attention générale étant rivée sur ce qui allait se produire, quoi que ce fût, les deux jeunes gens reculèrent dans les ombres. Un chariens lança un cri perçant. Capable de canaliser, il venait de repérer Egwen.
Non, non, fausse alerte.
Egwen inspira à fond pour calmer son cœur, qui semblait vouloir bondir hors de sa poitrine. Une des femmes s'adressa à la foule. Malgré l'accent à couper au couteau, la chère dame Irline reconnut trois mots. C'est fait. Les chariens s'agenouillèrent et les trois perchés sur des ânes baissèrent un peu plus la tête. Soudain, près des prisonniers, l'air s'infléchit. Egwen n'aurait pas pu utiliser un autre mot. L'air s'infléchit. Puis il sembla se déchirer et onduler, comme au bord d'une route, les jours de forte chaleur. Une silhouette se matérialisa au cœur de ce petit vortex, celle d'un homme très grand en armure scintillante. Tête nue, ce guerrier avait les cheveux noirs et le teint clair. Le nez un peu crochu, il était très beau, surtout dans cette armure, qui semblait entièrement composée de petits disques tellement polis qu'il reflétait le visage des chariens soudain tourné vers l'apparition.
« Vous avez bien agi, » dit le guerrier aux gens qui s'inclinaient devant lui. « Relevez-vous !»
Dans sa voix, Egwen reconnut l'accent de Shara, mais beaucoup moins prononcé que chez les autres. Tandis que ses guerriers se redressaient, l'inconnu posa une main sur le pommeau de son épée. Jaillissant des ténèbres derrière lui, un groupe d'hommes aptes à canaliser le contournèrent, puis vinrent le saluer. Le guerrier retira un de ses gants. D'un geste distrait, il gratouilla la tête d'un des types, comme il l'eût fait avec un chien.
« Ainsi ce sont les nouveaux Inakal, » dit-il pensif. « L'un de vous sait-il qui je suis ?»
Les captifs se recroquevillèrent devant leur nouveau maître. Même si les chariens s'étaient relevés, eux se montrèrent assez intelligents pour rester face contre terre et ne pas piper mot.
« J'imagine que non, » dit le guerrier. « Bien qu'on ne puisse jamais savoir si la gloire d'un homme ne l'a pas précédé, si certains d'entre vous savent qu'ils parlent, et je les laisserai partir. »
Personne ne dit un mot.
« Alors, écoutez et souvenez-vous. Je suis Bao le Wild, votre sauveur. Après avoir sombré au plus profond de la tristesse, je suis remonté à l'air libre afin d'accepter ma gloire et de réclamer ce qui m'a été arraché. Souvenez-vous de ça.
Les prisonniers ne bronchèrent pas. À l'évidence, ils ne savaient que faire. Gawain tira sur la manche d'Egwene pour lui rappeler qu'il devait filer, mais elle ne bougea pas d'un pouce. Il y avait quelque chose chez cet homme. Levant les yeux, elle les riva sur les chariennes, puis sonda les ténèbres.
« Parmi vous, les Inakal, quelqu'un connaît-il le dragon ? Parlez, je dois savoir. »«
Je l'ai déjà vu, » souffla un soldat. « Plusieurs fois. »
« Lui as-tu parlé ?»
demanda Bao en approchant du prisonnier.
« Non, seigneur. Les Aes Sedai conversaient avec lui, pas moi. »
« Oui, je me doutais que vous seriez inutile, tous autant que vous êtes. »« Soldat, on nous épie. Vous n'avez pas assez bien fouillé ce camp. Pas loin d'ici, je sens la présence d'une femme puissante dans le pouvoir. »
Egwene en sursauta de terreur. Gawain la tira par le bras, mais s'il s'enfuyait, il serait capturé en un éclair.
« Lumière, elle !»
L'assistance tourna la tête quand un bruit retentit près d'une des tentes détruites. Bao leva une main, et Egwene entendit un cri furieux dans l'obscurité. Une seconde plus tard, immobilisée par des flux d'air, Léane l'évita au milieu des chariens. Bao la tira jusqu'à lui, l'emprisonnant dans des tissages qu'Egwene n'était pas en mesure de voir. Le cœur de la chair d'Amerline rata un battement, mais repartit. Léane était vivante. Combien de temps avait-elle réussi à se cacher, et que faire pour l'aider ?
« Je vois, » dit Bao, « une de ces Aes Sedai. Toi, as-tu parlé avec le dragon ?»
Léane ne répondit pas et réussit à rester impassible.
« Impressionnant !»
Bao tendit la main et frôla la joue de la sœur. Puis, levant l'autre bras, il le pointa vers les prisonniers qui se tordirent aussitôt de douleur. S'embrasant, ils crièrent à s'en casser les cordes vocales. Egwene dut se forcer à ne pas s'unir à la source authentique. Devant ce spectacle, elle se mit à pleurer sans même s'en rendre compte. Les chariens s'agitèrent un peu.
« Pas de mécontentement !» leur dit Bao. « Je sais que vous vous êtes donné du mal pour laisser en vie quelques prisonniers. » Mais cela aurait fait de bien mauvais Inakal. Ils n'ont pas été formés pour ça, et lors de cette guerre, nous n'aurons pas le temps de les dresser. Les tuer aujourd'hui est un acte compatissant quand on songe à ce qu'ils auraient dû subir. De plus, cet Aes Sedai correspond à tout ce que j'attendais.
Le masque de Léane se fissura. Malgré la distance, Egwene vit qu'elle bouillait de haine. Bao lui tenait à présent le menton.
« Tu es une créature magnifique, » dit-il. « Hélas, la beauté n'a aucune valeur à mes yeux. Aes Sedai, tu vas devoir délivrer un message pour moi à l'intention de Lusterine, celui qui se fait appeler le dragon réincarné. Dis-lui que je viens pour le tuer et, ensuite, faire valoir mes droits sur ce monde. Oui, je reprendrai ce qui aurait dû être à moi. Dis-lui très exactement ça. » « Ajoute que tu m'as vu et décris-moi en détail. Il saura qui je suis. Sur cette terre, les gens l'attendaient, car des prophéties annonçaient sa venue. Ensuite, ils l'ont couvert de gloire et d'honneur. Là d'où je viens, c'est moi que les gens attendaient. Grâce à ma venue, leurs prophéties se sont réalisées. Le dragon est un imposteur, et moi, je suis la vérité. » « Dis-lui que j'aurai satisfaction au bout du compte. Il doit venir à moi afin que nous nous affrontions. S'il se dérobe, je dévasterai et je massacrerai. Ses sujets, je m'en emparerai et je réduirai ses enfants en esclavage. Quant à ses femmes, elles illumineront mes nuits. Inexorablement, je briserai, détruirai et dominerai les choses et les êtres qu'il a aimés. Pour éviter ça, il devra avoir le courage de se dresser contre moi. Dis-lui tout ça, petit Aes Sedai. Informe-le qu'un vieil ami l'attend. Je suis Bao le Wild, celui qui n'est possédé que par la terre. le tueur de dragons. Jadis, il me connaissait sous un nom que j'ai renié. Barid Bel.
Barid Bel,
répéta mentalement Egwen. Des souvenirs de ses leçons à la Tour Blanche remontèrent à la surface.
Barid Bel Médard, Démandred.
Dans le rêve des loups, la tempête fluctuait beaucoup. Des heures durant, Perrine avait sillonné les terres frontalières, croisant des meutes de loups alors qu'ils longeaient des lits de cours d'eau asséchés et traversaient des collines déchiquetées. Gaol avait appris très vite. Face à Tueur, il n'aurait pas tenu une minute, bien entendu. Mais ses vêtements ne changeaient plus pour un oui ou un non. En revanche, son voile continuait à se relever tout seul quand il était surpris par quelque chose. Ensemble, les deux compagnons sautaient de colline en colline dans les vastes étendues du camp d'or. Ici, la tempête était parfois dévastatrice et presque endormie en d'autres occasions. Pour l'heure, tout restait paisible. En revanche, presque toutes les hautes terres, jadis verdoyantes, étaient jonchées de débris. Des tentes écroulées, des tuiles de toit, la voile d'un grand navire, et même une enclume plantée dans la terre d'un versant de colline. Partout dans le rêve des loups, l'incroyable tempête pouvait se déchaîner, rasant des cités entières et des forêts. Au Chiennard, Perrine avait vu des chapeaux théariens portés jusque-là par le vent. Au sommet d'une butte, le jeune seigneur décida de se reposer, et Gaol s'immobilisa, lui aussi. Depuis combien de temps traquait-il Tueur? Quelques heures, semblait-il. Certes, mais quelle distance avait-il parcouru? À trois occasions, ils étaient retournés à leur cachette afin de se restaurer. Fallait-il en conclure qu'une journée entière s'était écoulée?
Gaol,
demanda Perrine.
Depuis quand sommes-nous ici?
Je ne saurais le dire, Perrine Aibara.
Gaol voulut vérifier la position du soleil, mais dans le songe, il n'y avait pas d'astre du jour.
Assez longtemps. Allons-nous devoir nous arrêter pour dormir?
Une très bonne question. L'estomac de Perrine se mettant à grommeler, il leur improvisa un encas composé de viande séchée et de pain. La nourriture imaginaire leur permettrait-elle de tenir, ou se désintégrerait-elle dès qu'ils l'auraient avalée? La seconde hypothèse. La viande et le pain cessaient d'exister à mesure que Perrine les mangeait. Pour survivre, ils devraient se reposer sur leurs réserves, ou se faire ravitailler par la chamane à chaque ouverture quotidienne de portail. Pour l'instant, Perrine se décala jusqu'à la cachette, récupéra de la viande séchée, puis rejoignit Gaol. Alors qu'il s'installait pour manger de nouveau, pas des illusions cette fois, Perrine s'avisa qu'il s'était à demi assis sur la pointe des rêves. Comme Lanfear le lui avait enseigné, il la portait en permanence, réglé sur la position qui la désactivait. Pour l'instant, il n'avait pas généré de dôme, mais ce serait un jeu d'enfant s'il désirait en créer un. Lanfear lui avait fait un cadeau somptueux. Qu'est-ce que ça signifiait? Pourquoi tentait-elle de l'appâter? Perrine mordit dans son morceau de viande séchée. Et Feil, était-elle en sécurité? Si les ténèbres découvraient ce qu'elle était en train de faire, eh bien, il aurait aimé pouvoir garder un œil sur elle au moins. Après avoir bu longuement à son outre, Perrine sonda les environs en quête de loups. Dans les terres frontalières, il y en avait des centaines et des centaines, des milliers peut-être. Il salua ceux qui se trouvaient dans le coin, leur envoyant à la fois son image et son odeur. Les réponses n'étaient pas verbales, mais il les comprit toutes.
Jeune taureau.
Cette pensée-là venait d'un loup nommé Yeux Blancs.
Jeune taureau, la dernière chasse nous attend. Seras-tu notre guide?
Beaucoup de loups posaient cette question dernièrement, et Perrine ignorait toujours quel sens lui donner.
Pourquoi avez-vous besoin de moi pour vous guider?
Tes rugissements nous montreraient la voie, répondit Yeux Blancs. Tes hurlements aussi.
Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ne pouvez-vous pas chasser seul?
Pas cette proie, jeune taureau.
Perrine secoua la tête. Toujours la même réponse, à qui qu'il s'adresse.
Yeux Blancs, as-tu vu Tueur, celui qui abat les loups? Vous a-t-il traqué ici?
Perrine amplifia sa pensée. Du coup, d'autres loups lui répondirent. Tueur, il le connaissait. Son image et son odeur transmises de meute en meute, un peu comme celle de Perrine. Mais pas un loup ne l'avait vu récemment. Cela dit, le temps, pour ces animaux, ne passait pas comme pour les humains. Récemment, ça pouvait signifier tout et n'importe quoi. Alors qu'il mordait dans sa viande, Perrine se surprit à grogner en sourdine. Aussitôt, il s'en empêcha. S'il avait fait la paix avec le loup tapis en lui, ça ne signifiait pas qu'il l'autorisait à entrer chez lui avec des pattes souillées de boue.
Jeune taureau,
émit un autre loup, une femelle nommée Arc Tourné, très âgée et chef de meute.
La chasseuse de lune marche de nouveau dans le rêve. Elle te cherche.
Merci, Arc Tourné. Je le sais et je l'éviterai.
Éviter la lune? C'est difficile, jeune taureau. Très difficile.
Sur ce point, la louve avait mille fois raison.
Je viens de voir la traqueuse de cœur,
émit enjambé un louveteau à la fourrure noire.
Elle a changé d'odeur, mais c'est bien elle.
D'autres loups étayèrent ce témoignage. La traqueuse de cœur rôdait dans le rêve. Certains l'avaient vue à l'est, mais d'autres prétendaient qu'ils se souvenaient seulement de ce que leurs ancêtres avaient vu. Des fragments de mémoire, en quelque sorte.
« Des nouvelles ?» demanda Gaoul.
« Une autre rejetée est ici, »
annonça Perrine.
« Occupée à on ne sait quoi, dans l'est. »«
Ça nous concerne ?»«
Dès qu'il est question des rejetés, ça nous concerne. »
fit Perrine en se levant. Il posa une main sur l'épaule de Gaoul et les décala tous les deux dans la direction indiquée par enjambé. Ce n'était pas la bonne destination, mais Perrine y rencontra des loups qui avaient vu la traqueuse de cœur la veille, alors qu'ils étaient en chemin pour les terres frontalières. Comme de juste, ils saluèrent chaleureusement Perrine et demandèrent s'il serait leur guide. Il ne répondit pas, se hâtant de localiser la traqueuse de cœur. Très précisément, elle était au champ de Mérylore. Perrine s'y décala et découvrit qu'un étrange brouillard recouvrait le camp. Dans le songe, on trouvait le reflet des arbres qu'avait fait pousser Rande, leur cime émergeant de la brume. Les tentes qui se dressaient partout évoquaient une sorte de champignonnière en plein air. Celles des aïels se comptaient par milliers, les feux de cuisson brillant entre eux comme des lucioles. Ce camp était là depuis assez longtemps pour avoir un reflet dans le rêve des loups. Cela dit, les rabats des tentes changeaient sans cesse de position, et les couvertures des soldats apparaissaient et disparaissaient d'une seconde à l'autre. L'immatérialité consubstantielle au lieu. Perrine conduisit Gaoul à la lisière d'un premier sous-camp, là où on attachait les chevaux. Entendant un bruit, les deux hommes se pétrifièrent. Quelqu'un parlait à voix basse. Perrine utilisa le truc qui avait si bien réussi à l'Anfear. Générant autour de Gaoul et lui une sorte de dôme de... il aurait été bien incapable de dire quoi, il les isola de l'extérieur, bloquant les sons venant d'eux. Très étrange ce phénomène. En fait, il avait érigé une barrière qui ne contenait pas d'air. Mais quel rapport avec les sons? Ensemble, les deux hommes approchèrent d'une tente. Celle de Rodel Itourald, un des grands capitaines, si on se fiait à l'étendard. À l'intérieur, une femme en pantalon feuilletait des documents posés sur une table. Mais il se volatilisait sans cesse entre ses doigts. Perrine n'identifia pas cette intruse, pourtant terriblement ordinaire. Pas du tout ce qu'il attendait d'une rejetée, en tout cas. Un gros nez, des yeux dépareillés, un front large et des cheveux clairsemés. Il ne comprit pas ce qu'elle marmonnait, mais à son ton, n'eut aucun mal à deviner le sens général de ses propos. Gaoul le regardant, Perrine tendit une main vers son marteau, mais il hésita. Attaquer tueur, d'accord, mais une rejetée? Dans le rêve, il savait pouvoir résister à tous les tissages. Pourtant... La femme jura de nouveau quand un des documents qu'elle lisait disparut. Puis elle releva les yeux. Perrine réagit sans tarder. En un éclair, il érigea entre la rejetée et lui une sorte de paravent où figurait, du côté traqueuse, une peinture reproduisant fidèlement le paysage qui s'étendait derrière lui. Du coup, la traqueuse le regardait mais ne le voyait pas, alors qu'il pouvait l'épier grâce à son tableau sans teint. Gaoul soupira de soulagement.
« Comment ai-je fait ça ?»
se demanda Perrine. On ne pouvait pas dire qu'il s'était entraîné. Et sur le coup, l'idée ne lui avait même pas paru bonne. La traqueuse de cœur, ça ne pouvait être qu'elle, bougea très légèrement les doigts. Le toit de la tente s'ouvrant en deux, elle s'éleva dans les airs et se dirigea vers les nuages noirs.
« Reste ici et sois à l'affût de tout danger !»
souffla Perrine à Gaoul. L'aïel hocha la tête. Prudemment, Perrine suivit la traqueuse, l'évitant par la seule force de sa pensée. Il essaya de générer un autre paravent illusion, mais ça se révéla vite impossible, car les images changeaient sans arrêt au gré de leur vol. Faisant plus simple, il garda sa distance et fit apparaître au-dessus de lui une sorte de nuage verdâtre. Si elle regardait derrière elle, la rejetée ne remarquerait sans doute pas cette bizarrerie très mineure. La traqueuse accélérant le rythme, Perrine dut se faire violence pour la suivre. Baissant les yeux, il eut l'estomac retourné, en constatant que le champ de Merilor semblait minuscule, contemplé de si haut. Bientôt, il ne fut plus visible derrière les nuages noirs. Perrine et sa proie ne traversèrent pas cette masse obscure. Alors que le sol disparaissait, les nuages firent de même, et ils se retrouvèrent dans une obscurité sans substance. Soudain, des points lumineux apparurent tout autour de Perrine. La rejetée s'immobilisa en vol stationnaire, puis se décida à bifurquer vers la droite. Perrine suivit le mouvement. Pour se dissimuler, il colora tout en noir, sa peau, ses vêtements et tout ce qui allait avec. La femme approcha d'un point lumineux qui grossit peu à peu et finit par obstruer l'horizon devant elle. La traqueuse de cœur tendit les mains et les projeta vers la lumière. Ensuite, elle recommença à marmonner. Certain qu'il devait entendre ce qu'elle disait, Perrine osa approcher. Et tant pis si les battements affolés de son cœur le trahissaient.
« Me voler ça ?»
grommelait la traqueuse.
« Tu crois que ça me touche ? Me doter d'une gueule cassée ? Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire ? Ce n'est pas moi. Je prendrai ta place, Moridine. Elle sera à moi. Avec ce visage, ils me sous-estimeront, c'est tout. Que la lumière te brûle. »
Perrine plissa le front, perplexe. Il ne comprenait rien à ce que racontait la rejetée.
« Vas-y, crétin, lance tes armées contre eux !»
éructa la traqueuse.
« La victoire finale, c'est à moi qu'elle reviendra. Un insecte peut avoir 1000 pattes, mais il n'aura jamais qu'une tête. Celui qui la détruit remporte le gros lot. Toi, tu t'échines à couper les pattes, imbécile heureux. Idiot congénital! Je recevrai mon dû, tu peux me croire !»
La rejetée hésita, puis elle se retourna. Surpris et inquiet, Perrine se décala sans tarder sur le sol. Par chance, ça fonctionna, ce qu'il n'aurait pas parié d'avance. Gaol sursauta, et le jeune seigneur prit une grande inspiration.
« Allons !»
Une boule de feu s'écrasa près de Perrine. Le jeune homme lâcha un juron, chassa la chaleur en invoquant une bourrasque, et imagina qu'il avait son marteau en main. La traqueuse de cœur se laissa tomber à côté de lui dans une gerbe étincelante d'énergie.
« Qui es-tu »
demanda-t-elle.
« Et où es-tu ? Je... »
La rejetée étudia Perrine comme si elle le voyait pour la première fois depuis que ses vêtements n'étaient plus noirs.
« Toi !»
s'écria-t-elle.
« Tu es responsable de tout ça !»
Ses yeux brillants de haine, la traqueuse leva les mains. Malgré le vent, Perrine sentit les émotions de son ennemi. Quand elle projeta sur lui une lance de feu, il la détourna sans le moindre effort. La traqueuse sursauta. C'était toujours la même chose. Ces gens ne comprenaient pas que rien ici n'était réel. Se dématérialisant, Perrine apparut derrière la rejetée et leva son marteau. Mais il hésita. « Tu es une femme ?» La traqueuse se retourna, cria et éventra la terre devant les pieds du jeune homme. Quand il se projeta dans le ciel, des tissages d'air tentèrent de l'immobiliser, mais il se défendit en générant entre eux et lui un mur de néant. Libre de ses mouvements, il se volatilisa et réapparut sur le sol. Voyant des boules de feu fondre sur lui, il invoqua une sorte de digue de terre.
« Je veux te voir mort !»
cria la traqueuse.
« Tu devrais l'être, parce que mon plan était parfait !»
Perrine se dématérialisa, laissant derrière lui une statue à sa ressemblance. Il réapparut près de la tente où Gaal regardait autour de lui une lance brandie. Le jeune seigneur érigea un mur entre eux et la furie, le colorant pour qu'elle ne les voie pas, puis il bloqua aussi les sons.
« Elle ne peut plus nous entendre !»
dit-il à Gaal.
« Tu es très fort ici !»
souligna Layel.
« Extrêmement fort !» Les matriarches le savent-elles ?
Comparé à elles, je ne suis qu'un débutant.
C'est possible. Je ne les ai jamais vues à l'œuvre ici, et elles ne parlent pas de cet endroit aux hommes.
Gaul secoua la tête.
Beaucoup d'honneur, Perrine Ibarra. Tu as beaucoup d'honneur.
J'aurais dû l'abattre quand j'en avais l'occasion,
dit Perrine. Après avoir carbonisé la statue, la rejetée en approcha, l'air désorienté. Puis elle regarda autour d'elle, avide de trouver un indice.
« Oui, »
approuva Gaul.
Un guerrier qui ne frappe pas une promise lui refuse tout honneur. Mais pour toi, le plus grand honneur
serait de capturer la rejetée, »
comprit Perrine. En était-il capable ? Inspirant à fond, il se décala jusque dans le dos de la traqueuse, puis imagina que des lianes s'enroulaient autour d'elle pour la neutraliser. Tout en l'injuriant, la femme trancha les tentacules végétaux avec des lames invisibles. Quand elle tendit une main vers Perrine, il se décala sur le côté. Ses semelles écrasant sur le sol des petites plaques de gel qu'il n'avait pas remarquées, il vit que la rejetée se tournait vers lui et lâchait une salve de torrents de feu.
« Intelligent !»
pensa Perrine en déviant l'attaque d'extrême justesse. Le feu percuta le versant de la colline derrière lui et y fit un trou bien rond. La traqueuse ne relâcha pas son tissage, son hideux visage distordu par la haine. Le terrible tissage de feu rebroussa chemin, fondant de nouveau sur lui. Les dents serrées, il le garda à distance. Très puissante, la rejetée insista, mais il ne céda pas et elle dut renoncer.
« Comment ? Comment peux-tu ?»
Perrine remplit de fourches racines la bouche de la traqueuse. Pas un jeu d'enfant, ça. Intervenir sur une personne, ici, n'était jamais simple. Cela posé, c'était plus facile que de la métamorphoser en animal, ou une fantaisie dans ce genre. Les yeux brillants de panique, la rejetée porta une main à sa bouche. Tentant de cracher, elle n'y parvint pas et, à bout de ressources, ouvrit un portail à côté d'elle. Perrine imagina des cordes qui volaient vers leur cible, mais elle les détruisit avec une simple lance de flamme, donc elle devait avoir réussi à cracher la fourche racine. Alors qu'elle s'engouffrait dans le portail, Perrine se décala pour se retrouver devant l'ouverture, prêt à bondir aussi. Il s'en abstint quand il vit la rejetée sous un ciel nocturne, débouchée au milieu d'une grande armée de trollocs et de blafards. Tous regardaient le portail, l'air avide. Alors que Perrine reculait, la rejetée porta de nouveau une main à sa bouche. Tandis qu'elle crachait les restes de fourches racines, le portail se referma.
« Tu aurais dû la tuer !»
dit l'Anfear. Se retournant, Perrine vit qu'elle se tenait dans son dos, les bras croisés. Naguère argentée, ses cheveux étaient à présent bruns. À dire vrai, son visage avait changé, rappelant celui qu'elle arborait lors de leur rencontre 2 ans plus tôt. Sans dire un mot, Perrine remit son marteau à sa ceinture.
« C'est une faiblesse, Perrine, »
dit l'Anfear.
« Chez Lusterine, je la trouvais charmante, mais ça restait quand même une faille. Tu dois t'en débarrasser. »«
Je le ferai, oui. Que fichait-elle donc là-haut, avec les boules de lumière ?»«
Elle voulait envahir des rêves. Cette femme est ici en chair et en os. Ça confère des avantages, surtout quand on veut s'en prendre aux songes. Quelle gourgandine ! Elle croit connaître le monde des rêves, mais il m'appartient depuis toujours. Quand même, il aurait mieux valu que tu la tues.
C'était Grindal ou Mogadienne ?
Grindal. Mais là encore, nous ne devons pas utiliser ce nom. Elle a été rebaptisée Es-Salaam.
Es-Salaam,
répéta Perrine.
Un nom que je ne connaissais pas.
Il signifie « sans pardon ».
Et toi, quel est ton nouveau nom ? Celui que tout le monde est censé utiliser.
La rejetée en rosie de confusion.
Aucune importance. En Tel Aran Riod, tu es très douée, Perrine. Bien plus que Lusterine l'a jamais été. J'ai toujours cru que je régnerais à ses côtés, car seul un homme capable de canaliser serait digne de moi. Mais la puissance dont tu as fait montre ici, eh bien, ce serait un substitut acceptable.
Perrine grogna. Son choufa relevé, Gaol avait traversé la petite clairière qui séparait certaines tentes des autres, et il brandissait une lance. Perrine lui fit signe de reculer. Primo, parce que l'Anfea risquait d'être beaucoup plus adroite que lui dans le monde des rêves. Et secondo, parce que la rejetée n'avait toujours rien fait de menaçant.
« Si tu m'as un peu observé, tu dois savoir que je suis marié et très heureux. »«
J'ai vu, oui. »«
Alors cesse de me regarder comme un quartier de bœuf pendu à un crochet sur un marché. »« Grindal, que fichait-elle ici ? Que voulait-elle ? » ?»«
Je n'en suis pas sûr. »
avoua l'Anfear.
Elle mène toujours 2 ou 3 complots en même temps. Ne la sous-estime pas, Perrine. Loin d'être la plus douée d'entre nous, elle reste dangereuse. À l'instar de Mogadienne, qui pratiquait à merveille l'art de la fuite, c'est une guerrière.
Je garderai cette idée à l'esprit.
Perrine approcha du coin où Grindal avait ouvert son portail. À l'endroit où le passage avait blessé le sol, il se pencha pour tâter la terre.
« Tu pourrais le faire aussi, »
dit l'Anfear.
« Quoi donc ?»«
Aller et venir d'un monde à l'autre, sans avoir besoin de l'aide d'un type comme Lusterine. »
Perrine détesta la façon dont la rejetée prononça ce nom. Même si elle tentait de la cacher, sa haine pour Rand était évidente dès qu'elle parlait de lui.
« Je ne peux pas canaliser, »
dit Perrine.
« Mais je pourrais imaginer que je suis... »«
Ça ne fonctionnerait pas, »
coupa l'Anfear.
« Il y a des limites à ce qu'on peut faire ici. » Même avec un esprit très puissant.
L'aptitude à canaliser n'est pas une affaire de corps, mais d'âme. Pourtant, il y a bien des façons pour quelqu'un comme toi d'aller et venir entre les mondes. En y étant en chair et en os, bien sûr. Celui que tu nommes tueur en est capable.
Ce n'est pas un frère des loups.
Exact, mais il y ressemble beaucoup. Franchement, je doute que quelqu'un ait jamais eu des pouvoirs comparables aux siens. Le ténébreux lui a fait quelque chose quand il a capturé son âme, ou ses âmes. Je pense que Semira aurait pu nous en dire plus. Dommage qu'elle ait quitté ce monde.
Lanfear ne semblait pas le regretter du tout. Elle jeta un coup d'œil au ciel, mais sans se départir de son calme cette fois.
« Tu as moins peur d'être repéré ?»
demanda Perrine.
« Mon ancien maître est... occupé. Toute la semaine, pendant que je t'observais, j'ai rarement senti son regard peser sur moi. »«
Une semaine ?»
s'étonna Perrine.
« Mais... »
« Le temps passe bizarrement, ici. Et de toute façon, ses limites s'effilochent. Plus on est près de la brèche, et plus les heures s'altèrent. Pour les braves qui approchent du Mont Shayolgul dans le monde réel, ce sera exactement pareil. Pour ce qui leur semblera un jour, trois ou quatre auront passé. »
« Une semaine ? Lumière. Qu'était-il arrivé dans le monde éveillé depuis ? Pendant que Perrine chassait, qui était mort et qui avait survécu ? Il aurait dû filer sur le site de voyage et attendre l'apparition du portail quotidien. Mais d'après ce qu'il avait vu via le passage de Graendal, on était en pleine nuit là-bas. L'issue de secours ne s'ouvrirait pas avant des heures.
« Tu pourrais créer un portail pour moi ?»
dit Perrine.
« Un passage qui me permettrait d'entrer et de sortir. Le feras-tu ?»
Alors qu'elle longeait une tente, laissant le bout de ses doigts frôler la toile, Lanfear réfléchit à la question.
« Non. »
finit-elle par répondre.
« Mais... »
« Si nous devons être ensemble, il te faudra apprendre à faire ce genre de choses seul. »
« Nous ne serons pas ensemble !»
affirma Perrine.
« Tu as besoin de ce pouvoir, Perrine. »
dit Lanfear, ignorant la déclaration du jeune homme.
« Tant que tu resteras piégé dans un monde ou dans l'autre, sans possibilité de transfert, tu resteras faible. Être à même de venir et de repartir d'ici te conférera un grand pouvoir. »
« Lanfear, je me moque du pouvoir !»
dit Perrine, en regardant la rejetée faire les 100 pas le long de la tente. « Une jolie femme, vraiment. Pas autant que Fail, mais superbe quand même. »«
C'est vrai ?»
s'étonna la rejetée.
« N'as-tu jamais pensé à ce que tu pourrais faire en étant plus fort, plus puissant et doté de plus d'autorité ?»«
Ça ne me tente pas. Je n'ai aucune envie de... »«
De sauver des vies ?»
coupa Lanfear.
« D'empêcher la mort de pauvres enfants ?» De faire en sorte qu'on ne brutalise plus les faibles? De mettre un terme au mal et de récompenser les gens honorables? D'encourager les hommes à être francs et honnêtes les uns envers les autres?
Perrine secoua la tête.
Tu pourrais faire tant de bien, Perrine Aibara.
Lanfear approcha du jeune homme et lui caressa la joue du bout des doigts.
Dis-moi comment faire tout ce que réussit tueur,
dit Perrine en repoussant la main de la rejetée.
Comment se déplace-t-il de monde en monde?
« Je ne peux pas t'expliquer ça, »
fit Lanfear en se détournant.
« Parce que c'est un don que je ne possède pas. Moi, j'utilise d'autres méthodes. Mais tu pourras sans doute lui arracher des réponses. Le plus tôt possible, si tu veux arrêter Graendal. »«
L'arrêter ?»«
Tu n'as pas compris. »
Lanfear se retourna vers Perrine.
« Le rêve qu'elle voulait envahir, ce n'était pas celui d'un des occupants de ce camp. Dans le songe, l'espace et les distances ne comptent pas. » Le rêve qu'elle convoitait, il appartenait à Davram Bachéré, le père de ta femme.
Sur ces mots, Lanfear se volatilisa.